Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Elle souffre de perte de mémoire. Quand on les trouve après 3, 4 ou 5 jours dans la forêt, ils ne comprennent absolument rien.
Il est incroyable ce chiffre. 120 000 personnes disparaissent tous les ans en Russie, dont 40 000 sont perdues dans les immenses forêts. C'est pour ça que des bénévoles se sont regroupés dans tout le pays pour chercher ces disparus. Ça s'appelle Lisa Alert. Et Claude Brouillot vous raconte dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir comment ça marche. Sous les radars et Hélène Roussel, vous l'avez entendu au Maroc, à Los Angeles et en Argentine. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foy. C'est une histoire, une seule. Ce soir, celle d'une jeune femme tellement cassée par la vie qu'elle demande à mourir dans son pays où c'est légal, son pays, les Pays-Bas. Et puis 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four avec cette question. Et s'il était temps de dialoguer avec les terroristes du Sahel. Mais avant, c'est au Soudan que nous allons. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On l'appelle désormais le massacre du sit-in. Quand il y a une semaine, les manifestants pacifiques ont été délogés dans le sang à Khartoum, au Soudan. 118 morts, 500 blessés. Ce sont les décomptes d'un comité de médecins. Depuis, les manifestants n'ont pas totalement dit leur dernier mot. Un mouvement de désobéissance civile est parti dimanche. On en est donc à son troisième jour. Bonsoir Clément Déhay.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant à l'Université de Paris 8. Vous êtes chercheur en sociologie politique, spécialiste du Soudan notamment. Chercheur au sein du think tank Noria Research. Troisième jour de désobéissance civile, donc on le disait, une vraie poursuite donc de ce mouvement ou un baroud d'honneur qui a échoué? Comment on peut qualifier ça pour l'instant?
Pour l'instant, on a l'impression que le mouvement tient. Ça fait trois jours, donc, comme vous l'avez dit, que les Soudanais sont entrés en grève. Jusque-là, on avait quand même peur, depuis la répression de lundi dernier, que la violence de la répression ait cassé le mouvement démocratique au Soudan. Il n'en est rien pour l'instant, puisque la grève tient, malgré les forces de sécurité dans la rue, malgré que les services de sécurité viennent chercher les Soudanais chez eux pour les obliger à travailler.
La grève tient, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble? Khartoum d'abord, et puis autour, est-ce que ça existe aussi autour de la capitale?
Alors oui, bien sûr. Alors, on a l'habitude d'une grève avec des manifestations en France. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là.
Ouais.
Les gens restent chez eux parce que les miliciens du régime sont dans la rue et tirent sur les manifestants. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une désobéissance civile. Les gens sont invités à rester chez eux, les magasins à rester fermés, les moyens de transport à ne pas circuler. Et donc, on est dans un mouvement qui est plutôt d'une grève par disparition de la population des rues plutôt qu'autre chose. Et ce mouvement n'est pas du tout circonscrit seulement à Khartoum. Mm-hmm. Il y a la plupart des grandes villes du pays sont également en grève. Donc Ouad Medani, Atbara, toutes les grandes villes du pays, toutes les capitales économiques du pays sont également en grève.
Vous le disiez effectivement, la crainte, c'est la brutalité aussi, et la brutalité qui a été celle de la dispersion, on va dire ça comme ça, de ce sitting dans le sang, était vraiment faite pour passer aux gens l'envie de recommencer. C'est pour ça que ça a été fait de manière aussi brutale. Est-ce que on est toujours à cette brutalité? En gros, est-ce que on risque de passer aussi à un stade supérieur si cette désobéissance se poursuit?
Alors, il paraît compliqué d'imaginer un stade supérieur vu les images de la semaine dernière. Donc vous le disiez, on est à 118 morts, un peu plus de 750 blessés. Le comité de médecins auquel vous faisiez référence a recensé plus de 70 viols autour du sitting lundi dernier. Donc on est déjà à un niveau de violence qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, comme la population n'est pas dans la rue, il y a moins de morts, il y a toujours des morts, il y a encore eu des morts hier et avant-hier dans des petites manifestations ou au travers de bavures des forces de sécurité. Donc on ne sait pas quel pourrait être le niveau supérieur de violence. Pour l'instant, on n'en est pas à un niveau supérieur de violence. Les gens ne prennent pas les armes, restent dans une protestation pacifiste. Donc voilà.
Quand on revient un peu une semaine en arrière, qu'est-ce qui s'est passé en gros pour que le Conseil militaire de transition finalement perde patience? Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se dit qu'il n'y a jamais eu d'intention de négocier, même si c'était le cas depuis plusieurs semaines, voire un peu plus d'ailleurs. Est-ce qu'au fond, tout ça, ça a été un gigantesque bluff de la part des autorités militaires?
Alors, très probablement, les autorités militaires ne sont probablement pas unies. C'est-à-dire qu'il y a probablement des segments de l'armée qui étaient pour des négociations et d'autres qui étaient très hostiles. En tout cas, les négociations n'ont abouti à rien. Ça faisait au moins une dizaine de jours ou deux semaines que les acteurs sur place nous disaient que les négociations étaient bloquées, que l'armée ne voulait pas céder sur le principal, c'est-à-dire une majorité dans un conseil de transition vers des civils. À partir de ce moment-là, les négociations paraissent en effet avoir été menées pour endormir le mouvement de protestation et préparer une répression. Par contre, l'opposition ne s'attendait pas à une répression aussi forte, aussi violente.
Et quand on entend dire « mais il y aura des élections dans 9 mois », on a évidemment bien conscience que non seulement ça ne veut rien dire, mais surtout 9 mois c'est tellement rapproché que c'est une manière de bien montrer que ce sera totalement impossible. Là aussi, on est dans du bruit avec la bouche, en disant ça comme ça en fait.
Oui, c'est du bluff. Il n'y aura pas d'élections. S'il y a des élections, ce sera des élections où l'opposition aura été tellement réprimée que de toute façon, ils ne seront pas en mesure de se présenter. Il ne faut pas oublier que ce régime a organisé des élections dans le passé avec des scores à plus de 95% pour le régime et qu'au moment du coup d'État en 89, ils avaient annoncé déjà qu'ils avaient mené des élections démocratiques et ça ne s'est jamais produit en 30 ans.
Et en même temps, Clément Déhé, pendant des semaines de contestation, il faut se souvenir quand même que ça a duré 6 mois. Tout ça, ça vient de loin. Et puis est venue la destitution d'Omar al-Béchir en avril dernier, le sitting, les discussions à la fac, tout ce qui se passait dans cette espèce de d'azibao géant à Khartoum. Est-ce qu'on peut revenir en arrière intégralement? Est-ce que cette opposition et ce goût de la liberté-là des Soudanais, même pendant un laps de temps aussi court, est-ce qu'il est très inédit au fond? Et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a pu ne servir à rien? Qu'on peut revenir intégralement en arrière?
On ne pourra pas revenir en arrière, c'est trop. Enfin, à mon avis, c'est trop tard. Il y a eu 6 mois de protestations. Les protestations commençaient mi-décembre. Mm-hmm. Des comités révolutionnaires se sont mis en place dans la plupart des quartiers de Khartoum, dans plein de villes. Les gens ont commencé à remplacer les anciens comités populaires organisés par le régime eux-mêmes pour s'occuper de l'éducation, de la distribution des ressources. Toutes ces choses-là vont être très difficiles à déconstruire par le régime militaire. Et ces 6 mois de protestation ont construit un goût de la démocratie et d'une alternative politique qui tire ses racines même plus loin. Il y a eu des mouvements de protestation très forts en 2012, en 2013. Il y a déjà eu 2 révolutions populaires au Soudan en 64 et en 85. C'est-à-dire que cet esprit de révolte et d'opposition au gouvernement militaire vient de loin. Et le sitting, l'expérience de ces derniers mois va être difficile à écraser pour le nouveau régime.
Et en même temps, de ce qu'on a cru comprendre, les plus actifs de ceux qui étaient vraiment présents dans ces rassemblements citoyens sont passés à la clandestinité aujourd'hui. Leur vie est clairement en danger. Est-ce qu'il y a une vraie opposition structurée qui peut vraiment reprendre le dessus sans risquer de se faire arrêter, voire pire?
L'opposition soudanaise était en clandestinité avant. Elle est repassée en clandestinité. La période extraordinaire qui s'est déroulée pendant un mois autour du sitting est plutôt une période inédite, mais le retour à la clandestinité est quelque chose que ces groupes connaissent. Ça faisait des années que donc l'association des professionnels qui a mené la contestation fonctionnait dans la clandestinité. Ce sont des militants chevronnés qui ont l'habitude de ce type de configuration. Et la période du sitting leur a permis de se renforcer, de créer des nouveaux liens avec les comités révolutionnaires dont je parlais, qui ne vont pas disparaître d'un seul coup. Cette opposition, elle est structurée, elle a un projet alternatif et elle ne va pas disparaître comme ça.
Clément Déhé, je voudrais vous faire écouter un monsieur qui s'appelle Mustapha Omar. Il a 43 ans, il a participé au rassemblement, participe aux barricades, reste mobilisé. Écoutez ce qu'il a à dire.
Les militaires sont arrivés avec des armes et des véhicules. Ces barricades sont censées les empêcher d'entrer dans le quartier. On est impuissants contre eux. Mais les barrages empêchent leurs véhicules de circuler. Ça les oblige à venir à pied et dans ce cas, on peut s'enfuir ou se protéger à l'intérieur de nos maisons. À 100 mètres d'ici, un de mes voisins a été battu à coups de crosse et a dû aller à l'hôpital. Un autre voisin a été battu avec sa femme, même s'il est policier. On veut des marches dans le quartier et la désobéissance civile. Si on s'arme, ça va devenir un vrai massacre. On est pacifique, on a promis de rester pacifique, on le reste.
Et promis de rester pacifique et on le reste. Est-ce que là-dessus, la population est très claire, Clément Dehaye, est très sûre d'elle, surtout. Est-ce qu'il peut pas y avoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait d'autres groupes et mouvements qui eux prennent les armes, ou est-ce que là on est vraiment très clair?
Pour l'instant, on est très clair. L'opposition appelle à rester pacifique jusque-là. Il n'y a pas eu de passage dans la violence armée. Par contre, le Soudan est un pays qui est en guerre civile depuis des années. Donc au Darfour depuis 2003 et la guerre civile qui se passe dans les régions du sud depuis l'indépendance. Donc c'est un pays où il y a des groupes armés rebelles qui pour l'instant n'essayent pas de profiter de la situation puisqu'ils discutent avec l'opposition. Ils sont eux-mêmes souvent partie prenante de ces groupes d'opposition et sont pour l'instant en trêve de combat. Mais si la situation s'envenime, on peut très bien imaginer que les régions périphériques, notamment du Darfour, s'enflamment à nouveau. D'ailleurs, il y a eu des reprises de combat ces derniers jours au Darfour. Alors, c'est pas encore très clair qui se bat contre qui au Darfour, mais apparemment, les milices qui ont tué des gens à Khartoum sont aussi responsables d'un massacre au Darfour ces derniers jours.
Est-ce qu'il y a un moyen de remettre le Conseil de transition autour d'une table, ou est-ce qu'en l'état, même y songer serait impossible, à moins d'être très naïf au fond, et d'imaginer qu'on peut à nouveau avoir des discussions avec des gens qui se sont assis sur ce qui a été négocié les 6 derniers mois?
Oui, c'est ce que j'allais vous répondre. Il y a eu des négociations pendant un mois, finalement, les militaires ont lâché leurs miliciens sur la population, donc la confiance est complètement rompue. Il ne peut pas y avoir de négociation sans confiance. C'est pour ça que le premier ministre éthiopien avait été nommé comme médiateur. Sauf que cette médiation, dès le soir même de la médiation, à peine le premier ministre éthiopien de retour en Éthiopie, plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés par le régime militaire. Des membres qui étaient présents en négociation avec le premier ministre éthiopien. Donc on voit mal dans ces signes, des signes encourageants vers des négociations. L'opposition a dit qu'elle était prête à nommer des membres pour un gouvernement de transition dès demain. Le problème, ce sont les militaires.
Et on voit bien même à l'inverse, d'ailleurs, que du côté de l'Égypte, on n'a pas condamné avec beaucoup de ferveur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même un modèle, quasiment, en fait, le général Sissi serait quasiment un modèle, en fait, pour ceux qui désormais sont au pouvoir au Soudan. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
N'oublions pas que général Al-Sissi, son premier fait d'armes est d'avoir massacré les frères musulmans sur une place, où il y a eu à peu près 1000 morts, donc encore plus qu'au Soudan. Donc oui, on peut parler clairement d'une coalition autoritaire entre ces différents pays. Il ne faut pas oublier que les généraux du Conseil militaire de transition soudanais sont allés rendre visite à l'Égypte, à l'Arabie saoudite et au Yémen juste avant de déclencher la répression. Donc on peut imaginer...
Racontez-nous comment vous avez fait, faisons la même chose.
Exactement, et en tout cas ils sont allés chercher un peu de soutien. Ils sont allés chercher du soutien. On sait que les semaines avant, énormément de matériel militaire sont arrivés en provenance des Émirats Arabes Unis. Matériel militaire qui a été fourni aux miliciens qui répriment aujourd'hui dans la rue les civils. Donc il y a très clairement des intérêts régionaux pour le soutien à ce régime militaire. Intérêts régionaux qui ne sont pas actifs qu'au Soudan, qui sont aussi actifs dans d'autres pays.
C'est qui le général Fatah El-Burhan? En gros, est-ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, une espèce de Béchir en puissance, donc vraiment retour total à la case départ ou pas?
Aujourd'hui, il y a deux hommes forts dans le conseil de transition militaire, donc le général Al-Burhan dont vous parliez et Mehdi, qui est un chef milicien. Al-Burhan, c'est un militaire de carrière, renseignement militaire, qui a eu une importance dans la répression au Darfour, dans la mise en place de la répression au Darfour, qui a également organisé l'envoi des soldats au Yémen, et donc on est sur quelqu'un qui est un militaire de carrière, de renseignement, quelqu'un qui a fait toute sa carrière sous l'ancien régime, qui faisait partie des premiers cercles du pouvoir. La seconde personne, donc, qui est Emeti, est quelqu'un qui a un parcours un peu plus éclectique pour le Soudan. C'est quelqu'un qui est un chef de guerre.
Éclectique ou chaotique?
Éclectique et chaotique. Il ne vient pas des élites habituelles, il vient des périphéries. Alors, c'est un chef milicien, c'est un chef de guerre, il s'est fait sur le sang. Il a regroupé les anciennes milices Janjaweed qui sont coupables des crimes contre l'humanité au Darfour, et a été un outil de répression absolument féroce ces dernières années, et il continue de l'être.
Donc là, il y a une sorte de collusion entre ces deux hommes-là qui font l'unanimité, vous y faisiez allusion tout à l'heure, qui font l'unanimité ou pas, en fait, notamment au sein de l'armée?
Aujourd'hui, une centaine de militaires ont été mis à la retraite d'office par le général Al-Bourhan. Donc on peut imaginer que cette alliance entre les miliciens et le renseignement militaire ne fasse absolument pas l'unanimité, d'autant plus que ces derniers jours, plusieurs militaires et policiers ont été tués par les miliciens durant la répression, et que ce sont des gestes qui passent assez mal dans l'armée qui a été affaiblie par l'accroissement des forces miliciennes ces dernières années, et qui en tient un petit peu rigueur à certains généraux. Et donc il y a des divisions dans l'armée. Par contre, une partie de l'armée, on le sait, a été désarmée. Les soldats qui ont défendu la population, qui a fraternisé avec la population pendant les manifestations, ont été désarmés, envoyés en province pour être sûr qu'ils ne protègent pas aujourd'hui dans les grandes villes la population.
Une dernière chose, Clément Déa, combien de temps on peut tenir au Soudan en état de désobéissance civile, en fait? Alors on a bien compris qu'il y avait une solidarité de la population pour l'instant, donc à tous les étages au fond, mais combien de temps on peut tenir comme ça?
C'est très compliqué, mais à peu près un tiers de la population est mal nourrie et en difficulté alimentaire, donc cette désobéissance civile ne pourra pas tenir de manière intégrale. Par contre, on va sûrement reprendre un modèle de résistance et de désobéissance, comme ce qui se passait avant le sitting, avec des manifestations dans les quartiers, des jours de désobéissance civile régulièrement, toutes les semaines, deux fois par semaine, pour permettre un roulement des personnes mobilisées, pour que les personnes les plus pauvres puissent travailler et continuer à gagner de l'argent. Aujourd'hui, à Khartoum, ça fait plus d'une semaine que les magasins sont fermés, puisque ça a commencé avant la désobéissance civile officielle. Et là, les gens ont besoin aussi de manger, de se nourrir, de travailler, vu la situation économique du pays.
Merci beaucoup. À suivre en tout cas très très près cette situation au Soudan. Merci beaucoup, Clément Déa, doctorant à l'Université de Paris 8, chercheur en sociologie politique et spécialiste du Soudan.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe en Russie avec des volontaires qui cherchent des disparus. 120 000 personnes disparaissent en Russie tous les ans, dont 40 000 dans les immenses forêts du pays, figurez-vous. C'est un groupe de volontaires qui est chargé de les retrouver. Une étonnante histoire que nous racontera Claude Brouillot. Vous verrez aussi sous les radars que le rétablissement du service obligatoire ne fait pas que des euros au Maroc. Julia Foyce nous racontera une seule histoire, l'histoire terrible d'une jeune Noah, et ça se passe aux Pays-Bas. Et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Encore une attaque djihadiste. On est au Mali cette fois, une situation si insoluble qu'on a envie de poser la question qui fâche, est-ce qu'il est temps de parler avec ces djihadistes au fond?
Écoutez, c'est un tabou, mais il faut peut-être envisager de le briser, envisager une négociation avec certains djihadistes, oui, c'est peut-être la seule solution malheureusement au Mali et au Burkina Faso.
Et on y vient dans un instant, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il nous emmène aux États-Unis, en Caroline du Nord même, chez Lee Fields and the Expressions, Will I Get Off Easy?
I'm staying.
Lovely Fields and the Expression. Will I get off easy sur France Inter? Moi, je valide personnellement.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachevo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Même si on m'a pas demandé mon avis, Hélène Roussel de retour pour Sous les radars, on part au Maroc. Hélène, où le rétablissement du service militaire obligatoire divise toujours autant la société.
Oui, le Maroc l'avait supprimé il y a 13 ans, ça coûtait trop cher. Mais donc voilà son grand retour avec le roi Mohamed VI, les premiers conscrits seront enrôlés à l'automne. Et quand le royaume dit obligatoire, ce n'est pas pour de faux. Ceux qui refusent de répondre à l'appel risquent entre un mois et un an de prison. Les jeunes Marocains, eux, restent pas très partagés sur la question, comme a pu le constater TV5 Monde.
Moi, j'ai commencé mes études pour les terminer et travailler, et aussi aider mes parents, pas pour aller faire le service militaire, je ne suis pas d'accord.
Il y a beaucoup de jeunes sans emploi, des chômeurs, je pense que le service militaire sera une bonne formation pour eux.
Et ça, c'est exactement l'argument des autorités marocaines. Le service militaire va servir d'intégration professionnelle et sociale à une jeunesse perdue, déscolarisée ou au chômage. Le service militaire a surtout bon dos pour Omar Brouski, universitaire journaliste au Maroc, que je vous propose d'écouter.
Hassan II l'avait établi, imposé à l'époque, essentiellement pour encadrer les militants de gauche à l'époque, qui étaient très actifs et qui exerçaient une opposition virulente. Là, c'est l'histoire qui se répète. Il y a une dimension d'encadrement, volonté d'encadrer les jeunes, notamment après le printemps arabe, où on a vu quand même une présence importante des jeunes qui ont joué un rôle de premier plan, qui continuent à le jouer dans les grandes villes.
Le service militaire obligatoire pour étouffer les envies de révolte, c'est bien pratique peut-être, mais c'est aussi, et ça c'est assez inattendu, un moyen d'émancipation pour les jeunes filles. Pour elles, rien d'obligatoire, et pourtant elles sont déjà 13 000 à avoir rempli un formulaire de recensement pour la conscription. Pas sûr que Rabat ait envisagé cela, enfin bon, on verra bien si elles sont acceptées. Une commission officielle se réunit à la fin du mois pour composer le tout premier groupe d'appelés sous les drapeaux.
Allez, un détour par Los Angeles. Hélène, Electronic Entertainment Expo, c'est en ce moment, et c'est la grand-messe du jeu vidéo apparemment.
Oui, car j'ai repéré un jeu inspiré de l'actualité, pour ne pas dire engagé même. Ah, Londres, c'était mieux avant, commence la bande-annonce. Troisième saga de Watch Dogs d'Ubisoft présentée à LA, qui déroule toute l'action dans un Londres futuriste, post-Brexit, et transformé en dictature. Une ville où l'intelligence artificielle détruit l'économie, où le crime organisé, les extrémistes contrôlent le gouvernement, où les robots sont des tueurs et où les humains se retrouvent en cage, ça fait envie, non ?
Ah, London. Had a good run there for a while. Now it's all riots. Bombings. And people thrown in cages like animals. Oh, and who could forget the killer robots everywhere?
Bon alors, le joueur pourra contrôler plusieurs personnages, genre super-héros évidemment. Votre mission dans ce Royaume-Uni post-Brexit est de bâtir la résistance contre l'émergence d'un régime totalitaire, indique un membre d'Ubisoft. Le directeur des créations d'Ubisoft, lui, conclut sa présentation. L'histoire a déjà montré que ce qui se passe à Londres est une bonne indication de notre avenir.
Ça te promet.
C'est plein d'espoir, oui. Au moins, me direz-vous, Fabienne, on pourra toujours s'entraîner. Un Watch Dogs 3e volet disponible en mars l'année prochaine.
Eh ben, c'est noté. Allez, on termine avec cette histoire savoureuse. Ce qui nous plaît beaucoup ici autour de la table, ça se passe en Argentine. Un homme condamné à indemniser son ex-femme pour toutes les tâches ménagères qu'elle a fait pendant 27 ans.
27 ans de mariage. 27 ans pour cette femme diplômée en économie à s'occuper des enfants, à faire à manger, les courses, le ménage, pour finir seule. Son mari la quitte quand elle a 60 ans. La juge en l'occurrence, a vu tout rouge. La dépendance économique des femmes vis-à-vis de leur mari, dit-elle, est l'un des mécanismes centraux à travers lesquels on subordonne les femmes dans la société. Il faut dire aussi que la compensation économique a été introduite dans le code civil argentin en 2015. Dans le cas de ce couple, par exemple, l'homme va devoir verser 8 millions de pesos à son ex. Ça fait 157 000 euros. Mm-hmm. Ça vous donne pas envie de chanter?
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free.
Et voilà.
Immense Aretha Franklin dans le film des Blues Brothers 1980.
Et ouais, on devrait penser avant, puis apprendre à nettoyer, repasser, etc. Voilà. Allez, ça va plaire beaucoup à Julia Foyce qui sera là dans quelques minutes dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Hélène.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mexique. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Russie que nous emmène en attendant l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Vous entendez derrière nous qu'on cherche quelqu'un. Je vous laisse un chiffre. En 2018, 120 000 personnes ont disparu, certaines pour quelques heures, d'autres pour beaucoup plus longtemps. Et près d'un tiers d'entre elles, ça fait 40 000 personnes, se perdent dans les immenses forêts du pays. 22% sont des enfants. Les pouvoirs publics, la police, faute d'effectifs suffisants, ont beaucoup de mal à faire face à ce phénomène. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
La police, donc, a un coup de main de la part d'une organisation qui s'appelle Lisa Alert. 200 000 bénévoles dans 47 régions de Russie. Tout le monde est bénévole et essaie de se rendre utile aussi pour donner un sens au quotidien. Et vous avez suivi ces gens, Claude.
Zina ! Zina !
La voix d'Oksana se perd avec les premières lueurs de l'aube en lisière d'une forêt, comme il y en a beaucoup à une centaine de kilomètres au nord de Moscou. Depuis plus d'une heure, Oksana, accompagnée par Anna, une camarade de Lisa Alert, balaie avec sa lampe torche les fossés le long d'un chemin caillouteux qui relie deux hameaux remplis de datchas.
Zina !
Dima, c'est le prénom d'une babouchka, une grand-mère de 70 ans, signalée la veille par ses proches comme disparue sur place. Toute la nuit, par petits groupes, les bénévoles de Lisa Alert se relaient, ratissant méthodiquement les environs.
Zina !
Mais les recherches sont difficiles dans ce genre de situation, car Dima, atteinte par la maladie d'Alzheimer, peut avoir perdu tous ses repères. Tania coordonne les recherches du groupe Lisa Alert dans le secteur.
Elle souffre de perte de mémoire. Et les gens qui sont malades comme ça, ils peuvent se comporter de façon inattendue. Ils sont dans un état de conscience modifié. Quand on les trouve après 3, 4 ou 5 jours dans la forêt, ils sont déshydratés, dans un état grave. Et pourtant, ils nous disent que tout va bien, qu'ils sont juste allés se promener aujourd'hui. Ils ne comprennent absolument rien. C'est impossible de dire où elle est allée. Absolument, куда угодно.
Même si les recherches restent vaines, Tania, qui travaille comme manucure la journée, ne lâchera rien. C'est la marque de fabrique de la famille Orange, comme on appelle en Russie la fondation Lisa Alert, en raison de leurs gilets de la même couleur. Une partie de ces bénévoles, qui donnent de leur temps pour retrouver des disparus, a perdu tout intérêt pour la vie politique du pays, où s'est retranchée dans l'opposition. Mais pour Xenia, l'une des responsables nationales, ce n'est pas le plus important.
Je pense que peut-être quelqu'un, il vient, oui, parce qu'il doit donner son énergie, et il doit faire quelque chose, et c'est très difficile, c'est très dur sentir que tu ne peux pas faire rien dans ce pays pour quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être oui, mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que je connais beaucoup les personnes différentes dans notre organisation. Quelques personnes sont très oppositionnelles, mais par exemple, nous avons des personnes qui sont vraiment patriotiques, nationaliste, elle pense que Poutine c'est très bien pour la Russie. C'est pas grave dans cette situation.
En 2018, plus de 20 000 personnes dans toute la Russie ont donné de leur temps pour Lisa Alert. La fondation est souvent épaulée par Les Anges, un autre groupe de sauveteurs bénévoles un peu particulier. Nous sommes sur un héliport à l'ouest de Moscou. Sacha, pilote d'hélicoptère professionnel, est l'une des figures de ces anges qui passent eux aussi beaucoup de leur temps libre, avec leurs 5 appareils, à rechercher gratuitement les disparus. Conscient de leur utilité, le ministère des Situations d'urgence a proposé à Sacha une aide financière. Malgré le coût élevé d'une heure d'hélicoptère évaluée à 400 euros en Russie, Sacha a toujours refusé.
L'année dernière, le ministère des Situations d'urgence m'a proposé de financer nos bénévoles. Je ne les ai pas laissés terminer. J'ai refusé parce que jamais de la vie je n'arriverai à justifier toutes mes dépenses, jamais. Avec l'argent de l'État, je paierai le carburant pour utiliser mon hélicoptère de mon appartement à ma datcha, et alors je reçois un appel pour partir en recherche, puis retour à la datcha. Comment je vais justifier cet argent ? Dès que je dépense un rouble, je vais avoir des comptes à rendre. Avec l'État actuellement, avec le système qui existe, ce n'est pas possible de travailler.
Les Anges, tout comme Lisa Alert, ne veulent pas critiquer outre mesure les services de l'État, mais cherchent surtout l'un comme l'autre à préserver une forme d'indépendance. Les deux ont déjà gagné leur combat. Depuis 2010 et la disparition tragique de la petite Lisa, 5 ans, qui a donné son nom à la Fondation, Xenia dit que pour elle, la vie en Russie a davantage de valeur.
La vie de l'homme et son valeur n'étaient pas longtemps très haut en Russie, c'est vrai. Notre travail, c'est faire la valeur de vie plus haute. Nous essayons de montrer que c'est très important. Et maintenant, je pense qu'il y a des faits positifs. Par exemple, maintenant, quand un enfant a disparu, tout le monde commence à le chercher. C'est vrai. Je pense que ça, c'est un peu le résultat de notre travail.
En 2018, sur les 14 000 personnes qu'elle est allée rechercher seule dans toute la Russie, la Fondation Lisa Alert en a retrouvé plus de 11 000.
Voilà, et Fabrice Lègle, le réalisateur de cette émission, qui me souffle dans l'oreille que c'est l'occasion de revoir Faute d'amour, qui avait été primé à Cannes, si je ne m'abuse, l'année dernière. Claude Brouillot, merci beaucoup, étonnante histoire, magnifique reportage, merci. C'est Six Steve, Gentle in My Mind, sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
It's knowing that your door is always open and your path for you to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some line. That keeps you on a back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.
C6 Steve sur France Inter, Gentle on My Mind. Mesdames et mesdames, Julia Foy, c'est là.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Esse.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
La chronique pour tous est signée Julia Foyce comme tous les mardis avec des nouvelles des femmes dans le monde. Mais cette semaine, Julia, exceptionnellement, vous voulez nous parler d'une femme, une seule dans le monde.
Elle s'appelle Noah, elle a 17 ans, elle est végétarienne depuis ses 9 ans, elle aime la nature et les gens. Elle vit avec sa sœur et ses parents à Arnhem, c'est aux Pays-Bas, et comme musique, elle écoute ça. The Mushroom Cloud du Kite Man Orchestra, c'est une groupie, Noah. Comme toutes les ados de son âge, elle a ses idoles, ses envies, elle les raconte, elle écrit. Sur les réseaux sociaux, pas mal. Mais sur un blog qu'elle tient aussi, sur les photos, elle est jolie, cheveux bouclés et blond et long, un visage rond, une peau de lait. Elle a encore dans les traits cette enfance qu'on voudrait retenir, je sais pas, peut-être que je délire, peut-être que je veux pas la laisser partir. Elle aime ça, Noah. C'est le reste qu'elle aime pas, c'est dedans que ça va pas. Sur son visage, ça se voit pas, mais on le sait aux Pays-Bas. On la lit, Noah, on lit qu'elle se sent sale à l'intérieur. Elle écrit cette douleur dans la tête, dans le cœur. Elle dit la peur, elle vit la peur. Ça fait 6 ans que Noah a peur. Ça a commencé à 11 ans, l'anniversaire d'une copine. Noah est encore une gamine. Il y a des garçons, il y a des plus grands, et ils lui font du rentre dedans. Elle veut pas, eux n'entendent pas. 6 mois plus tard, ça recommence. Toujours à un anniversaire, encore on lui dit « laisse-toi faire ». Oui, c'est un viol, elle sait. Noam est porté plainte, elle ne peut pas. Elle a trop honte, elle a trop peur. Alors Motus, elle ne dit pas. Elle fait semblant de rester en vie, alors qu'en vrai, elle survit. « J'invente rien », elle l'a écrit. 3 ans plus tard, c'est reparti à 14 ans, en pleine rue. Ils étaient deux inconnus. Cette fois, il y a juste des coups. En plus, son corps ne lui appartient plus, alors elle ne l'alimente plus. Il n'y a plus que son blog, qu'elle nourrit, en fait une autobiographie. Elle s'appelle « Gagner ou apprendre ». Elle voudrait surtout se faire comprendre. Son livre a plu, il a ému. Mais l'émotion, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient la loi. Vient ce jour où Noah écrit à une clinique spécialisée. Elle leur dit qu'elle est fatiguée, qu'elle voudrait bien tout arrêter pour une fois prendre les choses en main, ne plus rien se laisser imposer, enfin pouvoir se reposer. Ouais, ça s'appelle euthanasie et aux Pays-Bas c'est permis, même quand on a l'âge de Noah, quand on est encore si petit. Les psys se penchent sur son cas, les politiques donnent leur avis, mais sa demande est rejetée. On l'envoie faire une thérapie, tu reviendras quand tu seras plus grande, tu pourras refaire une demande. En attendant, débrouille-toi, reprends ta vie, jeune Noah. Mais cette vie-là, elle n'en veut pas. Vendredi 31 mai, dernier message sur Instagram, elle a hésité, Noah, avant de partager ça. Et on se demande aussi pourquoi. Une dernière fois, sonner l'alarme ou nous sommer de la regarder, nous tendre un miroir, son reflet, pour que l'on sache, que l'on fasse face. Ou alors dernière coquetterie d'une fille qui aime raconter sa vie. L'histoire ne le dira jamais. Ce qu'on lit, c'est qu'elle est soulagée. Enfin, la lutte est terminée. Enfin, la douleur va cesser. Et sur son lit aménagé, dans le salon de la maison, elle prend le temps de dire au revoir à tous ses proches qu'elle a aimés. Elle prend le temps de le raconter, de le poster, de partager. Noah est parti un dimanche, c'est sa sœur qui l'a annoncé. Et nous, on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est donc que ce pays qui autorise l'euthanasie à des ados, des tout-petits? Qu'est-ce que c'est donc que cette époque où le suicide n'est plus privé, où même la mort est exhibée sur Instagram, partagée? Je comprends qu'on se pose la question, ça évite les débats de fond, ça empêchera de se demander ce qui fait surtout qu'aujourd'hui, une femme sur deux sera violée, ce qui fait que dans ce monde-ci, c'est la victime qui est condamnée, qu'on peut finir par en crever, faute d'avoir été écoutée.
Et après ça, on se tait. Julia Foyce, merci.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, de nouveaux massacres ont donc été perpétrés dans le centre du Mali. C'était il y a moins de 48 heures. La situation ne cesse de se détériorer dans toute cette zone du Sahel. Et vous, vous vous demandez donc s'il n'est pas le temps de briser un tabou, négocier avec les djihadistes. C'est votre Monde à l'envers.
Discuter avec des terroristes, c'est choquant. Évidemment. Et pourtant, dans cette région, la question se pose parce que nous sommes dans une impasse, pire, dans une descente progressive vers les abîmes. Un mois après la mort de 2 soldats français au Burkina Faso, vous avez peut-être entendu les reportages de Claude Guibal sur France Inter ce matin, la violence ne cesse de s'accroître dans toute la zone. Au centre du Mali, c'est donc le village de Sobameba qui a été ravagé avant-hier soir. Alors les bilans sont divergents, 35 morts selon les uns, 95 selon les autres. Mais en tout état de cause, la population Dogon semble bien avoir été attaquée par des groupes Peul liés aux djihadistes. Leur signature en tout cas est là, armes automatiques, pick-up et cris de ralliement à la Akbar. En 18 mois, les affrontements entre communautés attisées par les terroristes liés à Al-Qaïda ont fait 600 morts parmi les civils au Mali. Juste à côté, au Burkina Faso, nouvelle attaque également avant-hier, 19 morts, 400 victimes en 4 ans selon un décompte de l'agence France Presse. Et plus au sud, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire pourraient être les prochaines cibles. La menace djihadiste s'étend dans cette région immense et incontrôlable. La présence des 4000 soldats français des opérations Barkhane et Sabre et de 10 000 soldats de l'ONU ne suffira jamais à enrayer cette spirale. Donc oui, la négociation est peut-être l'option la plus réaliste.
Donc admettons, Jean-Marc, mais qu'est-ce qu'on négocie? Comment on négocie avec des terroristes?
C'est bien sûr un tabou, vous le disiez, mais il a quand même déjà été brisé. D'abord par la conférence d'entente nationale au Mali, il y a 2 ans. Plusieurs personnalités de la société civile malienne avaient préconisé cette option. Ensuite, il y a 15 jours, par l'un des plus grands think tanks mondiaux, l'International Crisis Group. Alors que dit-il? Que ça vaut le coup d'essayer de discuter avec la Katiba Massina d'Amadou Koufa, principal groupe djihadiste dans le centre du Mali et le nord du Burkina. Parce que ce groupe, en particulier, n'est pas essentiellement religieux. Il prospère plutôt sur la manipulation des conflits entre éleveurs et agriculteurs, d'ailleurs accrue par le réchauffement climatique, et sur l'incompétence des États centraux incapables de fournir l'accès à l'eau, l'éducation, la santé. Il faudrait, précise le think tank, poser des conditions, notamment que cette Katiba renonce à son allégeance au terrorisme international. Mais le contact est possible via des dignitaires religieux maliens. Ça devrait se faire discrètement, avec une politique de petits pas, en essayant d'abord de régler des situations économiques locales, mais ça pourrait permettre de désamorcer progressivement l'engrenage des représailles. Après tout, c'est en gros ce que les Américains sont en train de faire depuis plusieurs mois avec les talibans en Afghanistan après 17 ans de guerre.
Enfin, ça reste quand même choquant et même inacceptable.
Oui, c'est vrai que ça l'est. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne marchera sans doute pas. Le gouvernement central malien a déjà refusé ce type de démarche parce que ce serait admettre son incapacité à trouver une solution politique, voire admettre qu'il pratique aussi des formes de discrimination à l'égard de certaines communautés du pays depuis longtemps. La France refuse tout autant, d'abord parce que ces groupes djihadistes ont sur les mains le sang de plusieurs de nos soldats, ensuite parce qu'ils défendent une forme de théocratie religieuse assez incompatible avec nos principes de laïcité, faut bien le dire, et enfin parce que Paris voit le conflit au Sahel avec un regard quasi exclusivement militaire. Tout ça se comprend, mais il est à craindre que ça ne mène nulle part. C'est ce que les militaires appellent continuer à tondre la pelouse. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que régulièrement, vous menez une opération antiterroriste. Alors, vous tuez quelques mauvaises herbes, c'est vrai. Ça entretient l'illusion, mais l'herbe repousse et c'est reparti pour un tour et c'est sans fin. Conséquence, donc, extension de la zone de conflit vers le sud et le golfe de Guinée, engrenage des affrontements intercommunautaires et régulièrement des morts occidentaux. Donc, c'est vrai, négocier avec des djihadistes, c'est choquant. C'est peut-être la moins mauvaise des solutions néanmoins. Et puis, dans une guerre sans issue, on ne peut jamais négocier qu'avec ses ennemis. C'est le principe dans l'histoire de toute forme d'armistice.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. On se retrouve demain le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne à suivre. Ne bougez pas, on s'occupe de tout.